Ce qui nous intéresse, c'est la suite après la chute du gouvernement. Il faut un gouvernement d'intérêt général, soulignent les loyalistes et le Rassemblement. Christopher Gigès était ce matin notre invité. Une trentaine d'amendements déposés. La réforme de la TGC examinée depuis ce matin ne fait pas l'unanimité parmi les élus du Congrès. Un pêcheur de Lifour retrouvé mort en mer ce matin. Il était parti hier soir pêcher en apnée près des falaises de Mélec. Le pape a célébré Noël à Rome. Dans sa bénédiction Urbi et Orbi, le souverain pontife a appelé à faire taire les armes et à surmonter les divisions. Et puis une double actualité voile dans la page sport. Le point sur le Vendée Globe, bien sûr, mais aussi le départ dans 1h30 maintenant de la Sydney Hobart. Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal. Il faut donc maintenant mettre en place le 18e gouvernement de Nouvelle-Calédonie. Le 17e gouvernement, élu le 17 février 2021 et présidé par Louis Mapou depuis le 8 juillet 2021, est donc tombé mardi soir. Christopher Gigès, membre loyaliste du gouvernement sortant, prend acte de la chute du gouvernement décidée par Calédonie Ensemble. Il était ce matin notre invité à 7h30 et il a souhaité surtout que les choses aillent vite maintenant.
La décision est tombée, Calédonie Ensemble a fait le choix de faire tomber le gouvernement. Maintenant, ce qui nous intéresse, c'est la suite et la mise en place d'un gouvernement d'intérêt général extrêmement rapidement, parce qu'on a des enjeux sur le chômage partiel, sur la négociation avec l'État, sur la mise en place de soutien aux entreprises qui doivent être prises extrêmement rapidement. Il faut vraiment que le gouvernement se mette en place rapidement, qu'un président soit nommé, pas au bout de 4 mois comme ça a été fait les dernières fois, mais de manière immédiate, un vice-président également, et que la feuille de route soit claire et la plus partagée possible. En tout cas, au niveau des loyalistes et du rassemblement, on est dans cet état d'esprit. Une feuille de route rapide et qui doit être partagée le plus largement possible.
La mise en place d'une nouvelle exécutive doit permettre aussi de retrouver le lien entre le gouvernement et le Congrès, lien qui s'était distendu ces derniers mois.
C'est indispensable. Enfin, je crois qu'on a tous essayé que ça fonctionne bien. Il faut qu'aujourd'hui qu'on soit d'accord sur une feuille de route entre le gouvernement et le Congrès sur des mesures d'intérêt général, des mesures pour les Calédoniens, et que ça déroule. Enfin, qu'on puisse se mettre d'accord sur cette feuille de route qui permet d'éviter des débats avec des tensions, avec des accusations à la fois du gouvernement contre le Congrès, du Congrès contre le gouvernement. On n'en est plus là et il faut que le gouvernement se remette en ordre de marche extrêmement rapidement, mais pas que avec le Congrès, c'est-à-dire qu'on doit travailler efficacement avec les provinces et avec les communes et avec la société civile pour que les réformes soient mises en place.
Christopher Gigès qui a aussi adressé ce matin à cette occasion un petit message à Louis Mapou, le président sortant.
Je veux avoir une petite pensée pour Louis Mapou avec qui on s'est beaucoup affronté. Chacun se rappelle du contexte de la mise en place du 17e gouvernement. On a eu des échanges durs, virils au sein de ce gouvernement. Mais je crois qu'on a su apprendre à travailler ensemble et j'ai beaucoup de respect pour la personne et je crois qu'il paye aujourd'hui aussi le comportement de certains membres indépendantistes du gouvernement, notamment de l'Union calédonienne.
En attendant que le 18e gouvernement soit en place et au travail, les membres du 17e gouvernement gèrent les affaires courantes et la vie institutionnelle se poursuit. C'est le cas ce matin au Congrès où les élus sont réunis pour étudier la réforme de la TGC. Un texte dont Christopher Gigès a rappelé l'importance et les enjeux.
Le texte sur la TGC, c'est une des conditions pour débloquer les 27 milliards. Ce qui est indiqué dans la convention, c'est qu'on doit avoir une amélioration du rendement, une simplification du dispositif et une meilleure équité de la TGC. Et ce qu'on a dit depuis le début, le texte est largement amendable. Le texte qui est sur le bureau du Congrès, pour ma part, moi je ne l'avais pas voté. Enfin, j'avais voté contre au niveau du gouvernement parce que c'était 6 milliards de pression fiscale supplémentaire. Et je crois je suis même sûr qu'il y a des amendements qui seront débattus au Congrès pour pas que cette pression fiscale supplémentaire soit appliquée. Donc je pense qu'on peut respecter l'esprit de la Convention de l'État, mais largement amender le texte pour pas que ça pèse sur les Calédoniens et notamment les plus fragiles et les entreprises.
Christopher Gigès qui était donc notre invité ce matin à 7h30. Alors justement, on va retrouver Nicolas Legrand qui est au Congrès pour suivre les débats sur cette réforme de la TGC. Nicolas, vous nous confirmez que plusieurs amendements ont bien été déposés, hein ?
Oui, une petite trentaine d'amendements au projet du gouvernement. 19 ont été déposés en commission et une dizaine sont encore susceptibles de l'être en séance. Il faut dire que cette réforme a été vivement critiquée, notamment par les partenaires sociaux, que ce soit les organisations patronales qui craignent un impact négatif sur l'activité économique ou encore les syndicats de salariés qui estiment que les ménages les plus modestes ou même les classes moyennes seraient pénalisés. En ouverture de cette séance, le gouvernement a donc présenté les objectifs de son texte, à savoir améliorer le rendement de la TGC qui n'a jamais été à la hauteur des attentes depuis sa mise en place en 2017 et les projections indiquent que son rendement serait ainsi augmenté de 6,5 milliards. Alors vous le savez, cette hausse est demandée par l'État dans la dernière tranche d'aide de 27 milliards de francs pour finir l'année conformément à la fameuse DM6. Cette loi du pays vise aussi à simplifier la taxe générale à la consommation. Les quatre taux actuels de 3, 6, 11 et 22% seraient remplacés par trois taux de 3, 10 et 18%. Les 46 articles examinés ce matin font aussi la chasse aux exonérations décidées à la mise en place de la TGC. Alors que les élus commençaient la discussion générale, il y a eu un incident de séance à l'instant. Gilles Brial, des loyalistes, venait d'expliquer que son groupe s'opposait à un certain nombre de mesures en raison du contexte post-13 mai. Marilyn Sakilia a, comme à son habitude, déclaré que la CCAT n'était absolument pour rien dans ces événements. Et elle a ensuite tenu des propos outranciers en accusant par exemple les chefs d'entreprise et notamment de la société Lefroy d'avoir mis le feu à leur entrepôt. Elle affirme aussi que si les entreprises avaient été aux normes en matière de lutte contre les incendies, alors les feux n'auraient pas pris. S'en est suivie une vive réaction, évidemment, vous l'imaginez, sur les bancs des loyalistes qui ont immédiatement rappelé qu'à l'intérieur de la société Lefroy se trouvait une trentaine de jeunes émeutiers au moment de l'incendie. Alors face au brouhaha et à la levée de ton généralisée, Velma Falaeo, qui a tenté de rappeler à l'ordre Marilyn Sakilia à plusieurs reprises, a finalement décidé de suspendre la séance. Au Congrès de la Nouvelle-Calédonie, Nicolas Legrand, RRB.
Radio Rythme Bleu, opinion.
C'est l'heure d'opinion, votre rendez-vous SMS sur Radio Rythme Bleu. Voici notre question du jour. Dans le contexte actuel, trouvez-vous qu'il était opportun de faire tomber le gouvernement ? Si vous trouvez que c'était opportun, vous tapez 1, sinon vous tapez 2 et vous envoyez votre réponse au 3146. On passe à l'actualité des faits divers avec plusieurs incidents à signaler. On va d'abord parler de ce pêcheur originaire de la tribu de Melek Alifou qui a été retrouvé mort au petit matin, Léana Colombo.
Oui, l'homme serait parti pêcher en apnée hier à la nuit tombée, équipé d'une lampe, mais proche des falaises au sud de l'île. C'est aux alentours de minuit que ses proches, ne voyant plus la lumière bouger, ont tenté d'alerter les secours. Problème, la zone était hors zone de couverture. Il a donc fallu retourner à la tribu pour appeler les gendarmes et les secours en mer. En attendant les secours, des jeunes ont tenté de se rendre sur les lieux de la disparition, mais sans succès au vu de la dangerosité de la zone. C'est finalement un hélicoptère des FANC avec une équipe médicale à son bord qui a retrouvé le corps vers 5h ce matin à l'endroit indiqué par les témoins.
D'autre part, le procureur de la République annonce l'ouverture d'une enquête après un vol accompagné de violences. Les faits se sont déroulés à Ouvéa dans la nuit du réveillon de Noël vers 1h15 du matin au magasin Fatou à la tribu d'Ouloupe.
Les deux cambrioleurs ont été surpris par la propriétaire âgée de 60 ans qui réside derrière le magasin. Un des cambrioleurs la bouscule avant de prendre la fuite avec son comparse qui était déjà parti par la fenêtre. À leur arrivée sur les lieux, les gendarmes retrouvent la victime choquée et blessée à la cheville. Après examen médical, la sexagénaire présentait une fracture de la hanche justifiant une incapacité totale de travail de 45 jours. La recette de la semaine, soit près de 2 millions de francs, ont été dérobées, ainsi que du tabac et des feuilles à rouler. Les investigations se poursuivent afin d'arrêter les auteurs des faits.
Et puis nous vous parlions ce matin de ce nouvel épisode de caillassage à Saint-Louis qui a eu lieu hier. Selon plusieurs sources, des personnes cagoulées auraient jeté des cailloux sur des automobilistes. Une personne âgée de 80 ans a été blessée à la mâchoire. Florent Perrin est le président de l'association Citoyen Mondorien.
Des personnes qui ont été caillassées du côté de Rocheliane, donc assez près d'ailleurs du verrou sud. Une dame a la mâchoire cassée et d'autres personnes se sont fait caillasser. Il y avait un enfant de 3 ans dans une des voitures, donc avec encore des traumatismes et des nouvelles victimes pour nous. La situation, elle est insupportable parce que on voit bien que l'État est dans l'incapacité de régler la situation à Saint-Louis et surtout de prendre des décisions. Aujourd'hui, des propositions ont été faites au niveau du gouvernement, mais rien n'arrive. Et donc, on se retrouve, nous, dans une situation avec un verrou tous les soirs. Et même avec des gendarmes sur la route, ça continue de caillasser. Donc, à un moment... Qu'est-ce qu'on fait? Comment on avance? Nous, au Mont-d'Or, on ne sait plus comment vivre ici, dans cette partie de la Calédonie.
Florent Perrin, le président de l'association Citoyen Mondorien. En bref, notez que les sociétés Ericsson et Intelia ont été sanctionnées par l'autorité de la concurrence pour pratiques anticoncurrentielles dans le secteur des télécommunications. Ces pratiques révélées dans le cadre d'une autosaisine en décembre 2023 consistaient en l'octroi et la mise en œuvre de droits exclusifs d'importation. Poursuivies sur plus d'une décennie, elles ont conféré à Intelia une exclusivité pour la distribution des produits et services Ericsson en Calédonie au détriment des clients, notamment ceux de l'OPT et des distributeurs concurrentiels potentiels, et ce dans un secteur stratégique pour l'économie calédonienne, indique l'autorité de la concurrence. Ericsson a écopé d'une amende de 417 millions de francs et Intelia d'une amende de 62 millions. Ce sera un nouvel an plutôt sobre cette année. Je vous rappelle que le haut-commissaire a pris un arrêté en date du 23 décembre qui stipule qu'il est interdit de vendre, de transporter et d'utiliser des feux d'artifice jusqu'au 5 janvier inclus. L'autorité porte l'attention sur le risque que représentent ces objets de divertissement pour le trouble à l'ordre public en cette année particulière, tout en rappelant aussi les risques d'incendie en période de sécheresse. Ces mesures ne concernent pas les professionnels ou les collectivités publiques. Pour autant, elles ont toutes fait le choix d'annuler les traditionnels feux d'artifice de fin d'année. Et puis, encore en bref, les modalités d'attribution du permis de chasse en province sud changent en 2025. Les demandes initiales ou de renouvellement se font désormais uniquement via un formulaire en ligne à retrouver sur le site internet de la province sud. Il faudra ensuite retirer votre permis au point de retrait que vous aurez sélectionné. Rappelons qu'en province sud, le permis de chasse est obligatoire pour chasser, transporter une arme et acheter une arme et des munitions. Il est 11h42, une pause dans ce journal. Dans un instant, on voit ce qui fait l'essentiel de l'actualité en métropole et dans le monde.
Toute l'info en trois lettres, RRB.
Du nouveau à Nouméa. E+ électroménager s'installe au quartier latin, au 30 rue Auguste Brun. Petit et gros électroménager, accessoires de cuisine et art de la table, tout pour équiper votre maison. Ouvert du lundi au vendredi, de 9h à 17h et de samedi jusqu'à 16h. Retrouvez-nous aussi à Magenta, Ducos et Pointe-Voûte. E+, au plus près de chez vous.
Attention, important. La ville de Nouméa a dû procéder à un toilettage des listes électorales face à de nombreuses adresses de domicile incorrectes. Certains d'entre vous ont pu être radiés. Vous devez vérifier votre inscription sur le site www.electeur-nc.fr. Si tel était le cas, vous devez procéder à votre réinscription, soit à l'hôtel de ville, soit par internet sur le site www.nouméa.nc, soit par courriel à l'adresse suivante vie.citoyenne@ville-nouméa.nc. Important, vous avez jusqu'au 31 décembre 2024 pour vous réinscrire. N'attendez pas le dernier moment. Pour celles et ceux qui ne sont pas inscrits, vous devez aussi le faire avant le 31 décembre 2024. Pour tout renseignement, appelez la mairie de Nouméa au 27 31 15.
Ah, ces assurances, j'y comprends pas grand-chose.
C'est pourtant simple, fais comme moi.
Va chez AXA, agence Ixone à Magenta à côté de Mazda. Pour la voiture, le voyage, la maison, la retraite, le placement et la protection de toute la famille, leurs conseils sont simples, clairs et efficaces.
AXA Agence Ixone, votre assureur de proximité.
Numéro de RIAS 170 059.
Mercredi 31 décembre, c'est le réveillon du nouvel an. Pensez à réserver votre table dans votre restaurant Le Fun au 28 67 08. Retrouvez les suggestions spéciales Saint-Sylvestre sur la page Facebook Le Fun.
RRB 11h 13h, Infomag, Jean-François Bodin.
L'actualité dans le monde et Noël qui a été célébré évidemment sur toute la planète et notamment à Rome. Après la messe sur la place Saint-Pierre, le pape François a prononcé la traditionnelle bénédiction Urbi et Orbi à la ville et au monde. Il a appelé à faire taire les armes et à surmonter les divisions en citant les différents conflits en cours au Soudan, en Birmanie, en Ukraine et bien sûr au Proche-Orient, notamment à Gaza.
Que les armes se taisent au Moyen-Orient. Les yeux fixés sur le berceau de Bethléem, ma pensée va aux communautés chrétiennes en Palestine et en Israël. En particulier à la chère communauté de Gaza, où la situation humanitaire est désastreuse. Que cesse le feu, que les otages soient libérés et que la population épuisée par la faim et la guerre soit aidée.
À Gaza, justement, on pensait que les négociations actuellement en cours au Qatar entre les Israéliens et les représentants du Hamas allaient dans le bon sens. Mais les deux délégations n'arrivent visiblement pas à se mettre d'accord et se renvoient mutuellement la responsabilité de cet échec. Frédéric Simon pour Europe 1.
Et les accusations sont mutuelles. Le Hamas reproche à Israël d'imposer de nouvelles conditions à la conclusion de l'accord portant sur la libération des otages et l'instauration d'un cessez-le-feu. Ces nouvelles demandes, affirme l'organisation islamiste, concerneraient chacun des aspects de l'accord, libération des otages, nombre et identité des détenus palestiniens qu'Israël pourrait libérer, retrait des troupes israéliennes dans la bande de Gaza, retour des civils gazaouis dans le nord du territoire et engagement d'Israël à mettre un terme aux hostilités, selon un responsable haut placé de l'État hébreu cité par par les médias locaux, c'est le Hamas qui aurait fait machine arrière sur ce dernier point notamment, en exigeant qu'Israël décrète la fin de la guerre dès la première phase de la mise en œuvre de l'accord pour le Premier ministre Netanyahou. Et là, il s'agit d'une accusation tout à fait officielle. Le Hamas remet en cause des ententes déjà obtenues et il ment une fois de plus.
Une situation qui est une douche froide pour de nombreux Israéliens qui pensaient que les choses avançaient et qui avaient repris l'espoir concernant notamment les otages toujours retenus par le Hamas. On retrouve Frédéric Simon.
Ces dernières semaines, les proches des otages et les Israéliens dans leur ensemble se permettaient d'être relativement optimistes, plus qu'auparavant en tout cas. Les propos très virulents de Donald Trump, les pressions exercées tant par l'équipe du prochain président américain que par celle de Joe Biden, et surtout l'isolement régional du Hamas depuis le cessez-le-feu entré en vigueur au Liban, autant de développements qui donnaient de bonnes raisons d'y croire. Les négociations indirectes se poursuivent, certaines avancées ont été constatées, mais c'est la première fois depuis plusieurs semaines qu'Israël et le Hamas s'accusent mutuellement d'une manière officielle et publique d'être à l'origine du piétinement des pourparlers.
Voilà donc pour ce point sur la situation actuellement au Proche-Orient et ces négociations a priori dans l'impasse entre les Israéliens et le Hamas. Noël qui a donc été fêté partout dans le monde et il avait une tonalité un peu particulière à Mayotte pour la petite communauté catholique de l'archipel. Elle s'est retrouvée pour fêter la nativité à l'église Notre-Dame de Fatima à Mamoudzou. Le reportage de Wilfried de Villers pour Europe 1.
Au centre de l'église, deux femmes en pleurs se serrent dans les bras l'une de l'autre. Elles ne se sont pas vues depuis le passage du cyclone. La joie des retrouvailles est de se rassembler pour célébrer Noël, surtout, selon Sonia, malgré les circonstances.
Ce cyclone déjà nous a ramenés à l'essentiel. Le fait d'être tous ensemble ici et se dire, on oublie ce qui se passe à la maison, on oublie les matériels cassés, les gens qui sont à l'hôpital. On est là pour glorifier.
Dans son homélie, le prêtre salue la mémoire des victimes du cyclone, moment de recueillement pour leur rendre hommage. Clément leur adresse aussi ses prières.
Je prie sincèrement pour les victimes. Il faut un peu oublier. Continuer à avancer parce que ça, c'est notre vie.
Se relever après la catastrophe, c'est aussi le message de cette messe, ce qui a profondément marqué Blandine.
C'est une force. Là, on est prêt à affronter tous les désastres, quoi. On n'est pas découragé, on a l'espoir.
Sur les hauteurs de Mamoudzou, la grande église blanche fait presque figure de miraculée. Seule sa porte en bois a été endommagée lors du cyclone. À Mayotte, Wilfried de Villers, Europe 1.
Et François Bayrou a présidé, lui, une réunion sur la reconstruction à Mayotte. On ne peut pas attendre, il faut que cela avance, a déclaré le Premier ministre, qui était accompagné par le ministre des Outre-mer, Manuel Valls, par celui de l'économie, Éric Lombard, mais aussi par la ministre du Logement, Valérie Létard, ainsi qu'un certain nombre de chefs d'entreprise du BTP. Le nouveau ministre de la Justice était, lui, sur le terrain. À peine a-t-il pris ses fonctions que Gérald Darmanin s'est rendu au tribunal judiciaire d'Amiens, puis dans un centre pénitentiaire dans l'Oise. Et il a fait passer ses premiers messages, assurant qu'il allait agir notamment pour donner plus de moyens à la justice.
Ce que nous voulons, c'est plus de rapidité, plus de fermeté. Et donc, pour qu'il y ait plus de rapidité, plus de fermeté, il faut un peu plus de moyens. Moi, je suis là pour travailler pour les agents du ministère de la Justice. On ne fait pas de la justice sans les magistrats, sans les greffiers, sans les agents pénitentiaires. Mon travail n'est pas de prendre les décisions à la place des magistrats. Mon travail est de donner une direction, mais aussi des moyens.
Gérald Darmanin, le nouveau ministre de la Justice. Et puis encore un mot d'actualité en métropole avec cette grosse frayeur et cette émotion à la SNCF. Un conducteur de TGV a mis fin à ses jours en se jetant par la fenêtre de son train lancé à grande allure sur la ligne sud-est. Il n'a évidemment pas survécu. Fort heureusement, les systèmes de sécurité ont fonctionné et le train s'est arrêté tout seul quelques kilomètres plus loin ainsi que les autres trains circulant sur la ligne. Cela a toutefois généré beaucoup de perturbations et de retards sur le réseau sud-est. 11h49, la dernière pause de ce journal avant de voir l'actualité sportive avec une double actualité voile dans un instant.
RRB, pour être au cœur de l'actualité.
Pour vos fêtes de fin d'année, votre magasin Hyper Upaïta vous accueille avec des horaires exceptionnels.
Vendredi 27 et samedi 28 décembre de 8h à 21h. Dimanche 29 décembre toute la journée de 8h à 20h. Lundi 30 décembre de 8h à 21h. Et mardi 31 décembre de 8h à 18h. Et profitez de nos prix bas dans notre catalogue festif pour illuminer vos fêtes.
Toute l'équipe de votre magasin vous souhaite de joyeuses fêtes.
Hyper U, sortie Païta Centre. Suivez toutes nos actualités sur notre page Facebook Hyper U Païta NC.
Hyper U, la qualité de notre métier, le prix, notre priorité.
U, commerçant, autrement.
Le BNC Tennis Open arrive du 29 décembre au 4 janvier à la Ligue de Tennis au Wentoro. Venez assister à l'événement tennis de l'année avec plus de 50 joueurs internationaux surmotivés pour succéder à Arthur Cazaux. Que vous soyez fan de tennis ou simplement à la recherche d'une expérience unique, ne manquez pas ce rendez-vous incontournable. En journée ou en soirée, vivez l'intensité du BNC Tennis Open dans une ambiance exceptionnelle. Qui remportera la 20e édition? Venez le découvrir à l'occasion du BNC Tennis Open du 29 décembre au 4 janvier au Wentoro. Infos et billets sur www.bnctennisopen.nc.
Boucherie Bobby, nous respectons l'essentiel, la qualité et la nature de nos produits. Des viandes savoureuses, sans conservateurs, pour un goût authentique et naturel. Faites le choix d'une boucherie qui met l'excellence au cœur de votre assiette. Boucherie Bobby, la saveur comme elle devrait être.
RRB, première radio d'information.
La suite d'Infomag avec le sport.
Avec Décathlon, suivez l'actualité sportive du jour et les résultats locaux, nationaux et internationaux. Décathlon, partenaire de tous les sportifs calédoniens depuis 10 ans. Décathlon, à fond la forme.
Et je vous le disais donc dans cette page de sport, une double actualité liée à la voile. On va d'abord parler des 104 bateaux, dont un calédonien, Pulpito MLS SCD, skippé par David Tréguet, qui vont prendre cet après-midi le départ de la 79e édition de la fameuse course au large Sydney-Hobart. Le départ sera donné à 13h. Une course qui sera dominée sans doute comme d'habitude par les maxi-yachts engagés cette année, dont le vainqueur de la précédente édition, Low Connect. On fait le point avec Jean-Pierre Zajac.
Barré par son propriétaire Christian Beck, Low Connect va devoir affronter Comanche, qu'il avait battu de 51 secondes l'an dernier lors d'une arrivée mémorable dans la Derwent River. Quatre fois vainqueur dans le passé, Comanche détient aussi le record de la traversée qu'il avait établi en 2017 après avoir parcouru les 628 milles nautiques qui séparent Sydney de Hobart en un jour, 9 heures, 15 minutes et 24 secondes. Les autres maxi qui s'alignent au départ sont Walthing et Maritimo. Figurent aussi des voiliers en provenance de Hong Kong, des États-Unis, de Nouvelle-Zélande, des Philippines, de France, Cocody, et de Nouvelle-Calédonie, à savoir Pulpito. Les conditions météo au départ sont excellentes, avec un vent de nord-est qui va propulser les concurrents vers le détroit de Bass, où devrait les attendre un méchant coup d'ouest qui risque fort de les secouer. À Sydney, Jean-Pierre Zajac, RRB.
Voilà, départ de cette Rolex Sydney au Bart à 13h tout à l'heure, hors de Nouméa. Et pendant ce temps-là, le Vendée Globe se poursuit, lui bien évidemment. Après avoir passé le Cap Horn, Johan Richaume et Charlie Dalin sont toujours engagés dans un duel plutôt serré, Léana.
Et oui, toute la journée d'hier, Charlie Dalin sur Massif Santé Prévoyance a réduit son retard sur le leader de la course, Johan Richaume, à bord de Paprec Arkea. Au dernier pointage, seuls 40 000 nautiques séparaient les deux skippers. Sébastien Simon sur Groupe Dubreuil a été le troisième à franchir le Cap Horn cette nuit pour nous. Il a lui aussi réduit son retard sur la tête qui n'est plus que de 635 000. Merci le Pacifique, vive l'Atlantique, a même lancé Sébastien Simon dans une vidéo diffusée sur le Vendée Globe juste après avoir franchi cette étape cruciale.
Il est 11h53, c'est la fin d'Infomag, le journal de la mi-journée. Merci de votre attention. Infomag qui se poursuit jusqu'à 13h bien évidemment avec Thierry. Et à 13h, ce sera le rappel des principaux titres de l'actualité. Bel après-midi à tous.